Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 11. Deux couplets d'une chanson. Saint-Claude. Ah, c'est vous, capitaine, reprit la même voix qui venait de crier. Qui va là? Et un partisan franc-comtois, revêtu d'un costume exactement pareil à celui du chef montagnard, sortit du taillis et vint prendre par la bride la monture de son chef. « Mettez pied à terre, Raoul !» dit le capitaine en descendant lui-même de cheval. Raoul obéit, et le montagnard fit quelques pas pour s'éloigner dans le bois avec les deux nobles animaux. Notre héros l'arrêta en lui demandant « Y a-t-il du nouveau ici ?»« Rien, capitaine. Et dans la ville ?»« Les Suédois les gris ont pillé quelques caves, entre autres celles du couvent. » Pendant toute la soirée, ils ont éventré des futailles, et beaucoup d'entre eux, à l'heure qu'il est, doivent être ivres morts. « C'est bien, va !» Puis le capitaine reprit le chemin qui se dirigeait vers Saint-Claude, et à la sortie du petit bois, il dit à son compagnon. « Maintenant, Raoul, pas un mot. Évitez que vos éperons se heurtent l'un contre l'autre. Évitez que votre pied rencontre un caillou roulant. Évitez que la poignée de votre épée touche les canons de vos pistolets. L'ennemi est devant nous, derrière nous, à nos côtés, partout. Le moindre bruit pourrait devenir le signal d'une mousquetade dont nous serions le but. Gagnons le bord de la rivière, évitons les rayons de la lune et marchons dans l'ombre des saules. » Les deux hommes, prenant toutes les précautions que venait de recommander le franc-comtois, arrivèrent à un endroit où la Bienne, coulant rapidement sur un lit de cailloux, formait un coude brusque dont l'extrémité ne se trouvait guère qu'à 150 ou 160 pas de la muraille de la ville. La profondeur du lit de la rivière en ce lieu était d'un demi-pied tout au plus. « Halte !» murmura le capitaine en s'arrêtant derrière le tronc noueux d'un saule gigantesque et en mettant la main sur le bras de Raoul pour le retenir à côté de lui. Au bout d'une demi-minute, il approcha ses mains de sa bouche et il imita le cri de la chouette avec une perfection si grande que Raoul leva involontairement les yeux pour voir si quelque oiseau de nuit n'était point perché sur l'une des branches du vieil arbre. L'accusant vit ce mouvement, et se penchant vers son compagnon, il lui glissa dans l'oreille, d'une façon à peine distincte, ces trois mots. « C'est un signal. »« Que veut-il dire ?»« Que nous sommes là. »« Va-t-on vous répondre ?»« Oui. » En même temps, et comme pour confirmer cette affirmation du capitaine, le ululement de la chouette se fit entendre dans l'intérieur même de la ville, mais affaibli par la distance. « Et maintenant ?» demanda Raoul en étouffant sa voix. « Il faut attendre. »« Quoi ? Vous verrez. » Puis l'accusant appuya son doigt sur sa bouche comme pour recommander le silence. Raoul se tut. La lune éclairait une partie du rempart démantelé qui faisait face aux deux hommes. Une tour massive dont les créneaux tombaient en ruine projetait son ombre opaque sur le reste de la fortification. Une sentinelle suédoise, le mousquet sur l'épaule, allait et venait avec une lente régularité dans un espace de 200 pas environ. Le canon du mousquet, la poignée de l'épée et celle du poignard, les crosses des pistolets, étincelaient dans les rayons de la lune quand la sentinelle passait sur le rempart éclairé. Tout semblait s'évanouir subitement lorsque le soldat entrait dans l'ombre projetée par la vieille tour. Pendant près d'un quart d'heure, le Suédois continua sa faction solitaire et monotone. Puis un nouveau personnage apparut sur la muraille, se montra en pleine lumière, comme s'il voulut se faire remarquer, et ensuite disparut dans cette partie des fortifications que les ténèbres envahissaient. 2 secondes s'écoulèrent. La sentinelle tournait le dos au nouveau venu. Une voix vibrante, quoique contenue, s'éleva dans l'ombre et chanta sur la plateforme même de la tour. « Comte Jean, voici venir l'heure. Le soleil penche à l'horizon. » L'Angélus, dont le clocher pleure, l'oiseau chante dans le buisson. La fleur de l'églantine parfume le val où s'égarent mes pas. Je te cherche en vain dans la brume. Comte Jean, me voici. Pourquoi ne viens-tu pas ? Au moment où la voix lançait le dernier mot et la dernière note du dernier vers de ce couplet, la sentinelle, qui s'était d'abord arrêtée avec un étonnement manifeste, revenait d'un pas rapide vers le chanteur qu'elle rejoignait dans l'ombre où il se tenait caché. Le vent qui passait apporta jusqu'à l'accusant et jusqu'à Raoul le murmure confus de paroles animées, puis un cliquetis de fer, puis un bruit sourd et indéfinissable. Ceci se passa en moins d'une minute. Le soldat suédois reparut ensuite, son mousquet sur l'épaule, et recommença sa faction. Seulement, il paraissait grandi. On entendit dans le lointain ce cri venir à travers l'espace. « Sentinelle, veillez !» Une voix rauque répéta plus près. « Sentinelle, veillez !» puis une autre encore. Le soldat, que le capitaine et Raoul ne perdaient pas de vue, obéit à la consigne des villes de guerre et lança de toute la force de ses poumons les deux mots consacrés « Sentinelle, veillez !» Et le même cri, redit par des voix successives, s'en alla, s'éloignant et s'affaiblissant toujours. Quand il eut complètement cessé de se faire entendre, la sentinelle s'arrêta court. Elle appuya très cavalièrement son mousquet contre un créneau, et croisant ses bras sur sa poitrine, elle commença ce deuxième couplet. La villageoise, au sein de l'ombre, cherchant son amoureux berger, glisse blanche dans la nuit sombre entre les arbres du verger. L'étoile dans l'eau se reflète, la brise murmure tout bas, et l'écho des rochers répète « Comte Jean, je t'attends, pourquoi ne viens-tu pas ?»« C'est Garbas, » dit tout bas et rapidement l'accusons. « Le rempart est libre pour un instant. Venez, Raoul !» Les deux hommes quittèrent l'abri du saule qui les avait protégés jusque-là. Ils franchirent la bienne à gué, n'ayant de l'eau que jusqu'au-dessus des chevilles. Bientôt, ils se trouvèrent au pied de la muraille, ou plutôt de la tour. L'accusant fit entendre un sifflement doux et léger. Une échelle de corde glissa le long du rempart et descendit jusqu'à leurs pieds. « Je vous montre le chemin, » dit le capitaine en s'élançant le premier à l'escalade. « Suivez-moi. » Et ils atteignirent l'un et l'autre les créneaux disjoints et couverts de mousse. Une masse sombre et immobile gisait à quelques pas de là sur la plateforme de la tour.
« Qu'est-ce que cela, Garbas ?»
demanda l'accusant.
« Cela, capitaine ?» répondit le personnage ainsi interpellé. « Ce n'est rien. C'est le corps du Suédois qui voulait tout à l'heure m'empêcher de chanter. »«
Quoi de nouveau ?»«
Rien, capitaine.
Le prisonnier ?»«
Gardé à vue. » »«
Le colonel et le curé ?»«
Ils vous attendent. » »«
Point de changement à l'heure du supplice ?»«
Aucun. Le bûcher est prêt. Il n'y manque que le feu et le condamné. » »«
Nos hommes ?»
Ils sont ici.
Tous ?
Oui.
C'est bien.
Marche devant, Garbas.
Nous allons à la maison de la Grand-Rue. Il importe de donner à nos lecteurs une idée exacte de cette ville de Saint-Claude, dans laquelle doivent se passer quelques-uns des événements importants de notre récit, et nous croyons ne pouvoir mieux faire qu'en reproduisant textuellement ce qu'écrivait, au sujet de la petite cité historique, un littérateur distingué auquel nous faisons de nombreux emprunts. Monsieur Louis Jousserandeau, dans Le Diamant de Vouivre, un de ses remarquables ouvrages sur la Franche-Comté au XVIIe siècle. Nous le laissons parler. Il fallait, dit-il, être un lépreux, objet d'horreur et de dégoût pour ses semblables, ou un grand criminel, fuyant les châtiments de la justice humaine, ou un saint anachorète, animé de cette foi religieuse, de cette croyance évangélique des pères de l'Église, pour concevoir seulement la pensée de passer sa vie dans ce lieu. Telles sont les réflexions qui viennent dans l'esprit de tout homme qui, pour la première fois, se trouve en vue de Saint-Claude. Qu'on se figure trois hautes montagnes de 600 mètres d'élévation, formant entre elles comme la moitié d'un parallélogramme. À mi-côte, l'une de ces montagnes laisse échapper de son flanc une sorte de plateau de peu d'étendue, borné d'un côté par la roche à pic, qui se nomme aujourd'hui, on ne sait trop pourquoi, le Sceau de la Pucelle, et de l'autre par une pente insensible qui descend jusqu'au fond de la vallée. C'est sur ce plateau que la ville fut bâtie. Engloutie sous la neige pendant les deux tiers de l'année, cette cité ne se révèle alors, aux yeux du voyageur qui la domine depuis les hauteurs voisines, que par la fumée qui s'échappe de ses larges cheminées. Pas la moindre trace de végétation pendant les longs hivers. Le lichen seul, croissant sur ce rocher nu, rompt par sa verdure éternelle la blanchâtre monotonie de ce paysage. Les routes, nivelées avec la campagne par des couches de neige, permettent à peine de descendre au fond de cet abîme, tant il y a de danger à s'écarter du chemin, tant on doit craindre de disparaître à chaque pas dans des fondrières d'où l'on ne revient jamais. Alors, pas d'animaux dans les pâturages, pas de bergers dans les montagnes,
pas de moutons dans les prairies, pas de chèvres aux mamelles pendantes gravissant les coteaux et broutant l'herbe aux mille fleurs au pied des buissons de buis. On n'entend que les croassements des corbeaux, les hurlements des loups et les cris de l'aigle ou de l'oiseau de proie qui va chercher pâture et revient à son nid, triste ou joyeux, suivant que la chance a été bonne ou mauvaise. L'homme reste chez lui au milieu de sa famille, usant les provisions qu'il a faites pendant les beaux jours et attendant le printemps, comme le mendiant qui meurt de faim attend l'aumône du riche. Ce lieu le plus sauvage peut-être des montagnes du Jura fut choisi jadis par un saint anachorète qui vint y oublier dans la paix et le silence les bruits du monde et les mauvaises passions des hommes. Ce saint homme se nommait Romain. Il vivait dans les premiers temps de l'établissement du christianisme dans la Sécanèse. Son ermitage reçut le nom de Condat, et bientôt Lupicin, son frère, vint y vivre avec lui. Mais quelques années après, cette pauvre retraite ne pouvant plus recevoir les chrétiens fervents qui y arrivaient en grand nombre, ils se retirèrent dans un lieu nommé Le Cône, et qui plus tard fut appelé Saint-Lupicin, du nom de l'un de ses fondateurs. Après la mort de saint Romain, Lupicin ramena à Condat les religieux dont il s'était fait le chef et fonda ainsi une communauté qui devait un jour rivaliser de richesse avec les plus riches couvents de l'Europe. Mais hélas, est-il donc dans la nature de l'homme de gâter les plus belles institutions? La loi naturelle veut-elle donc que les choses les plus saintes soient toujours la proie de l'ambition et de l'intérêt? Saint Romain avait consacré ce lieu à la prière, à la piété la plus austère. La religion seule, l'amour de Dieu avait dirigé ses pas. Il avait fondé là un temple qui avait pour voûte l'immensité des cieux, pour muraille de vastes forêts de sapins, pour autel le roc nu. Perdu dans ce désert où les racines des plantes étaient sa seule nourriture et l'eau de source son unique boisson, il ne vivait que pour l'autre monde, ne considérant celui-ci que comme un pénible voyage que l'homme doit accomplir et au bout duquel il trouvera le terme de ses fatigues. Il meurt enfin, et bientôt ses successeurs, oubliant son exemple, font de son pieux ouvrage une puissance dans la hiérarchie féodale. Enrichi par les riches offrandes que les pèlerins de tout rang venaient déposer au pied de Saint-Claude, archevêque de Besançon, né à Bracon, près de Salins, mort en 696, les moines de ce couvent achetèrent de vastes domaines, firent construire des châteaux pour les protéger, eurent des hommes d'armes à leurs ordres, des vassaux, des serfs sous leur dépendance, perçurent des dîmes, imposèrent des corvées, bâtirent monnaie, s'arrogèrent le droit de sauf-conduit dans les états de Bourgogne et celui de juger en dernier ressort. En un mot, cet humble ermitage, qui avait jadis servi de retraite à un pauvre ermite, devint en quelques siècles un des plus riches couvents de l'Europe, et ses habitants, d'insolents seigneurs qui firent même par exiger des quartiers de noblesse pour recevoir les nouveaux venus dans leur sein. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous accompagner dans une salle du rez-de-chaussée d'une petite maison étroite et basse située non loin de la place Louis XI, à l'extrémité de la Grand-Rue. Cette pièce, que nous ne décrirons point, était meublée avec une simplicité plus que modeste. Sur le manteau de la cheminée se voyait un grand crucifix à côté d'une lampe de cuivre allumée. Un feu de souche brûlait dans l'âtre. Devant la cheminée, deux hommes étaient assis en face l'un de l'autre et tous deux appuyaient leurs coudes sur une table de chêne noire qui les séparait. L'un de ces hommes était un prêtre. Il atteignait cet âge qui est la maturité de la vie. Sa figure, belle et franche, dont les traits fortement accusés annonçaient une indomptable énergie, exprimait en ce moment la préoccupation et l'inquiétude. Son compagnon, revêtu d'un costume militaire presque semblable à celui du capitaine Lacuzon, était un grand et beau vieillard, taillé en athlète et qui ne ployait point ses larges épaules sous le fardeau des années. Son visage était coloré. Ses cheveux blancs, comme de l'argent, et coupés très courts selon la mode des puritains écossais. Sa moustache blanche et fort longue. Ses grands yeux bleus brillaient d'un feu vif et pur comme ceux d'un jeune homme. Son regard profond et étincelant s'attachait d'une façon distraite sur l'une des poutrelles du plafond. Son front se plissait, ses lèvres se contractaient à son insu.
tout en lui décelait une préoccupation aussi sombre que celle du prêtre. Aucune parole ne s'échangeait entre eux. Le marteau du beffroi de la cathédrale frappa deux coups sur la cloche. Les notes sonores de l'airain montèrent en vibrant dans l'air ébranlé. Ce bruit soudain fit tressaillir à la fois le prêtre et le soldat. « 2 heures, s'écria ce dernier. « Déjà. « Colonel, demanda le prêtre, vous êtes inquiet, n'est-ce pas ? « Oui, il devait être ici à minuit. Il me l'avait promis. Il sait que le temps presse. Il sait que les bourreaux n'attendent pas. Il faut qu'un événement imprévu le retienne. Et tout événement est un danger dans ce moment où les Suédois et les Gris tiennent la montagne et la plaine. « Et il est seul, » ajouta le prêtre. Puis au bout d'un moment, il murmura. « Il faut prier. » Joignant l'action aux paroles, il quitta l'escabeau sur lequel il était assis. Il mit un genou en terre, et les yeux tournés vers le crucifix, il commença son invocation. À peine en avait-il prononcé les premiers mots que ce commencement de prière fut exaucé. On frappa depuis le dehors un coup léger, puis un second, puis un troisième, contre la porte de la maison. Le vieux soldat courut à cette porte. « Qui va là ? » demanda-t-il avant d'ouvrir. La voix du capitaine répondit « Saint-Claude, et l'accusons !»« C'est lui !» dit le prêtre avec un élan de joie. La porte s'ouvrit. Le capitaine et Raoul entrèrent dans la chambre. Garbas, qui les avait accompagnés jusque-là, s'éloigna dans la direction de la place Louis XI. Le médecin des pauvres, chapitre 12. La Trinité. Sois le bienvenu, Jean-Claude, s'écrièrent à la fois le prêtre et le soldat. Merci, mon père, merci, colonel, répondit l'accusant. Je suis en retard, n'est-ce pas ?
De plus de 2 heures, nous commencions à craindre qu'un malheur ne fût arrivé.
Et vous aviez raison de craindre, car j'ai traversé un fort grand danger. Je vous raconterai cela plus tard. Sachez seulement que vous ne m'auriez très certainement jamais revu sans le secours providentiel de ce gentilhomme que Dieu a envoyé à mon aide et que je vous présente comme mon sauveur. » En même temps, l'accusant poussait en avant Raoul, qui, d'après la recommandation du capitaine, cachait son visage jusqu'aux yeux sous son pan de manteau. Le vieux soldat et le prêtre saisirent chacun une des mains du jeune homme et la serrèrent avec une profonde effusion de reconnaissance. « Raoul !» s'écria l'accusant. « Les mains qui touchent en ce moment les vôtres sont celles de 2 héros, de courage et de loyauté. Voici le colonel Varose et voici le curé Marquis. Et maintenant que vous savez qui ils sont, il faut qu'ils sachent qui vous êtes. Montrez-leur vos traits d'abord. Vous leur apprendrez ensuite votre nom. Et ce que vous leur direz, je leur affirme, moi, qu'ils peuvent et qu'ils doivent le croire. » Raoul laissa tomber son manteau et jeta sur la table le chapeau à large bord qui cachait son front. Varose attacha sur la figure qui lui apparaissait ainsi tout à coup un regard rempli de stupeur et presque d'épouvante. Il saisit avec force le bras du prêtre et, le faisant reculer de 2 ou 3 pas, il lui demanda d'une voix sourde. « Est-ce possible, curé ? Est-ce possible ? Les morts peuvent-ils donc aujourd'hui sortir de leur tombeau scellé depuis 20 ans et se montrer vivants à nos yeux ? Comme au temps où Dieu criait à Lazare enseveli « Lève-toi et marche !»« Que voulez-vous dire, colonel ?» répondit vivement le curé Marquis. « Je ne vous comprends pas. »« Quoi ? Vous ne voyez donc point là devant vous, immobile et muet, l'image ou le fantôme de mon ami mort ? De Tristan de Champ d'Hiver ?» Le curé Marquis, qui n'avait pas connu le baron, ne pouvait répondre. Raoul se chargea de le faire pour lui. « Colonel Varose, dit-il avec émotion. Vos yeux et votre cœur ne vous trompent qu'à demi. C'est bien un champ d'hiver, en effet, que vous voyez. Mais ce n'est pas votre vieil ami. C'est le fils au lieu du père. C'est Raoul au lieu de Tristan. Et moi, je vous répète, colonel, appuya l'accusant, que ce qu'il vous dit est la vérité. Et je me porte corps pour corps garant de sa parole.
Ah !
Murmura Varose en élevant vers le crucifix ses mains jointes. Que Dieu soit béni. Qu'il soit béni d'avoir réservé une telle joie à ma vieillesse. Raoul de Champ d'Hiver. Un Champ d'Hiver, le fils de Tristan, le dernier de cette grande et vaillante race. Il est vivant, je le revois. Oh Raoul, mon enfant,
mon fils !» Et le vieux soldat saisit le jeune homme dans ses bras, l'attira sur sa poitrine, le serra contre son cœur et l'embrassa à 20 reprises en balbutiant des paroles indistinctes et entrecoupées, tandis que de grosses larmes d'attendrissement et de joie coulaient sur ses joues bronzées. Le capitaine Lacuzon et le curé Marquis assistaient en silence à cette scène si belle et si profondément touchante, et ils ne parvenaient qu'à grand-peine à contenir l'émotion qui débordait en eux. « Chant d'hiver ?» dit tout bas le prêtre à Lacuzon. « C'est un grand nom, un nom qui retentit dans la province comme la trompette de Gédéon devant les murs de Jéricho. Et ce jeune homme est à nous ?»« Corps et âme. » Et sa bannière seigneuriale flottera parmi nos étendards ?»« Ceci, mon père, est impossible. Raoul mettra au service de notre cause son courage, son intelligence, son épée. Mais il ne peut inscrire son nom sur nos drapeaux. Il est obligé, quant à présent du moins, de cacher sa naissance.
Pourquoi ?
Je vous le dirai, ou plutôt, il vous le dira lui-même. » Tandis que ces paroles s'échangèrent rapidement et à voix basse entre le curé Marquis et le capitaine, Varose faisait sur lui-même un violent effort, et desserrant l'étreinte dans laquelle il tenait Raoul embrassé, il lui disait, tout en essuyant du revers de sa main puissante une dernière larme qui coulait sur sa joue, « Il faut me pardonner, mon enfant. Cet accueil trop expansif et hors de propos. Les larmes sont faites pour les femmes et non pour les vieux soldats. Mais je n'ai pas été le maître de les arrêter. C'est que j'aimais tant votre père, voyez-vous. C'est que cette étrange ressemblance me reporte si bien aux jours de ma jeunesse. C'est que vous me rappelez tant de souvenirs amers et doux. Raoul, c'est Dieu lui-même qui vous a conservé. Soyez le bienvenu parmi les défenseurs de la liberté franc-comtoise. Merci, colonel Varose. Merci, noble ami de mon père, s'écria Raoul. J'espère vous prouver bientôt que ce n'est pas seulement par le visage que je ressemble à Tristan de Champ d'Hiver. Le colonel allait répondre à ces dernières paroles, mais le curé Marquis s'avança entre le vieillard et le jeune homme, et mettant sa main sur l'épaule de Raoul, il dit « Baron de Champ d'Hiver, ou quel que soit le nom qu'il vous plaise en ce moment de prendre ou de garder, vous êtes pour nous un fils et un frère, puisque vous avez sauvé la vie de notre fils et de notre frère Jean-Claude Prost. Désormais, entre nous, tout sera commun. Vous partagerez nos périls. Si Dieu bénit notre cause, vous aurez votre part du triomphe. Si, au contraire, Dieu l'abandonne, vous vous ensevelirez avec nous sous les plis de notre drapeau vaincu. Mais en ce moment, il faut nous oublier nous-mêmes et ne plus penser qu'au prisonnier comptant dans son cachot les heures et les minutes qui le séparent du supplice. « Curé Marquis, répliqua le capitaine, que parlez-vous de supplice quand Lacuzon est là et quand Lacuzon veille ? Les bourreaux veillent aussi et c'est à 8 heures du matin que Pierre Prost doit mourir. Eh bien, à 8 heures du matin, Pierre Prost sera sauvé par moi ou me verra mourir avec lui. Et nous serons deux, capitaine, s'écria Raoul. Nous serons deux pour le salut ou pour la mort. Les Suédois sont sur leur garde, reprit le prêtre. Le supplice de l'oncle du capitaine Lacuzon est pour eux une fête et un triomphe. Et enfin, hier, dans la ville, on a vu le masque noir, ce qui, comme vous le savez, est toujours pour nous le présage de quelque malheur. En entendant Marquis prononcer ces trois mots, le masque noir, Raoul tressaillit. Peut-être allait-il interroger, mais Lacuzon ne lui en laissa pas le temps. Et dit-il avec impétuosité, « que m'importent les Suédois et les Gris, que m'importent Guébriand et le masque noir. Ils entoureront le bûcher comme pour une fête, prétendez-vous ? Eh bien, soit, et je ne veux pas que leur espoir soit déçu. Ils auront une fête belle et sanglante, je vous le promets. Qu'ils préparent des torches pour allumer leur bûcher. Je vous jure, moi, par Notre-Dame d'Eisenlen, que je l'éteindrai dans le sang. » Les Suédois sont nombreux, poursuivit Marquis. M'avez-vous jamais vu compter mes ennemis ? D'ailleurs, que me fait le nombre ? Chacun de mes montagnards vaut 10 hommes, et j'ai mes montagnards. Comment entreront-ils dans la ville ? Ils y sont déjà, ils y sont depuis hier. Tous ? En nombre suffisant, du moins. Sans uniforme, mais bien armés. Garbas, qui me quitte à l'instant, leur porte mes dernières instructions et mes ordres suprêmes. Les Suédois ont un chef dont ils reçoivent l'impulsion. Et l'on dit que le comte de Guébriand est un habile tacticien. Eh bien, si les Suédois ont un chef, les montagnards en ont 3. Ce matin, quand l'heure du danger sera venue, ils verront en même temps à leur tête la robe rouge du curé marquis, cette oriflamme des grands combats, la moustache blanche de Varose et l'épée de l'accuson. Marquis, Varose et l'accuson valent bien Guébriand, peut-être.
Il a raison, dit le colonel. Il a raison 100 fois pour une.
Je suis comme lui, j'ai confiance.
Comment diable voulez-vous que les Suédois, qui sont des pillards et des mercenaires et qui se battent pour gagner leur solde, résistent, fussent-ils 20 contre 1, au choc impétueux de nos libres soldats, combattant pour renverser un bûcher infâme?
Je vous le répète, curé marquis, l'enfant dit vrai.
Je le crois, colonel, puisque vous le croyez, répondit le prêtre. Puis faisant signe à l'accusant de s'agenouiller, il lui imposa les mains en murmurant « J'appelle sur ta tête la bénédiction du Dieu des armées, et si tu dois succomber dans ton héroïque entreprise, meurs absous et va droit au ciel. »
« Merci, mon père, dit l'accusant en se relevant, et il serra successivement les mains du prêtre et celles du colonel. C'était cette union constante, absolue, sans nuage, régnante entre ces 3 hommes qui les rendait si forts.
Raoul de Champdivert admirait cette trinité sublime, et il se disait que si grande que la fît la voix populaire, qui est aussi la voix de Dieu, vox populi, vox dei, quand on la voyait de près, on la trouvait plus grande encore. Le bruit d'un pas retentit dans la rue et se rapprocha rapidement. Les 4 personnages, réunis dans la salle basse, se turent et attendirent. Le bruit de pas cessa de se faire entendre en face de la maison, et 3 coups légers, pareils à ceux qui avaient annoncé l'arrivée du capitaine, furent frappés contre la porte.
« Qui va là ?» demanda Varose. Une voix répondit « Saint-Claude et l'accusant !»
La porte fut ouverte. Le nouveau venu portait un costume de moine. Le capuchon rabattu cachait entièrement son visage.
« Dominus vobiscum » dit-il d'une voix pleine et sonore.
« Amen !» répliqua le curé marquis.
« Et que la paix soit avec nous, mes très chers frères !» ajouta le moine, en relevant son capuchon, qui laissa voir une bonne figure, aux joues pleines, aux lèvres rouges. « Une de ces têtes monacales qu'on est bien sûr de ne rencontrer jamais, dans l'étoile sombre et splendide du Dominicain, de Le Sueur et de Zurbaran, ces ascètes de la peinture. »«
Sur ma foi !» s'écria Varose. « C'est cet excellent frère Malo !»«
Comme vous dites, colonel, » répondit le religieux.
« Que se passe-t-il donc, frère ?» demanda Marquis. « Et comment se fait-il qu'à 7 heures de la nuit, vous vous trouviez hors du chapitre ?»«
Hélas !» murmura le moine avec un soupir douloureux. « Nous ne sommes plus au chapitre. »«
Où donc êtes-vous »«
À l'hôtel de ville, où nous nous trouvons fort mal. Les Suédois nous ont chassés pour installer le comte de Guébriand à notre place. Ces misérables soldats ont pillé notre trésor et dévalisé notre cave. Dieu abandonne ses serviteurs. »
Le curé marquis haussa involontairement les épaules.
« Eh ! » dit-il, avec un mouvement de brusquerie dont il ne fut pas le maître. « Qu'importe à Dieu votre trésor et votre cave ? Jadis, ces calices étaient de bois, et les moines buvaient de l'eau. Dieu n'en était que mieux servi.
Mais, pardon, mon frère, je comprends que l'opinion que j'exprime ne soit point la vôtre. Revenons à votre visite. Elle doit avoir un but.
« Sans doute, sans doute. Elle en a un. » répondit le moine un peu troublé par la réplique acerbe du prêtre austère. « Je venais, je voulais...
Remettez-vous, mon frère. Pardonnez-moi des paroles trop vives et que je regrette. Nous vous écoutons avec attention. »
« Eh bien, dit le frère Malo, notre supérieur m'a fait réveiller cette nuit tout au beau milieu de mon premier sommeil et m'a donné l'ordre de me rendre sans retard dans la prison de Pierre Prost, qui doit subir sa sentence à 8 heures du matin sur la place Louis XI, et de lui porter les derniers secours de la religion. Or, ce cachot est précisément une des oubliettes de notre couvent, vers lequel je me dirigeais tout pensif, en cherchant dans ma tête un moyen de vous faire savoir de quelle mission j'étais chargé, pensant bien que vous auriez une chose ou une autre à faire dire à ce pauvre Pierre Prost. Mais je ne trouvais rien, et j'ignorais même que vous fussiez tous 3 à Saint-Claude. Ce qui, convenez-en entre nous, est une bien grave imprudence, car vous vous mettez, comme on dit, dans la gueule du loup. Enfin, cela vous regarde, et ne regarde que vous. Le hasard me fit rencontrer Garbas à l'entrée de la grand-rue. Je lui contai mon embarras, et comme il sait que je suis un brave homme de moine, quoique je tienne fort aux richesses de notre couvent et que j'apprécie les bons vieux vins de notre cave, il me donna le mot de passe et m'expliqua que je vous trouverais ici. Me voilà. Je me mets entièrement à votre service et je jouerai volontiers ma tête s'il le faut pour tirer d'embarras ce digne et honnête Pierre Prost qui m'a guéri d'un mal de genou fort douloureux quand il était le médecin des pauvres. Je sais bien que je ne fais que mon devoir, ajouta frère Malo avec un peu d'amertume. Mais enfin, je le fais, et c'est déjà quelque chose pour un moine qui ne sert point de calice de bois et qui met peu d'eau dans son vin. Ah, frère Malo, frère Malo, s'écria le curé marquis avec enthousiasme, vous êtes un digne et vrai religieux, et je rétracte de tout mon cœur les paroles inconsidérées dont je vous ai déjà demandé pardon. Faites-moi l'honneur, mon frère, de me donner votre main. La voici, messire prêtre. Vous m'aviez un peu piqué tout à l'heure, mais je ne m'en souviens plus. Bien vrai? Par le grand saint Malo, mon patron, je vous l'affirme. Maintenant, dites-moi vite ce qu'il faudra que je répète à Pierre Prost. Dites-lui de ne pas désespérer. Dites-lui que du cachot de votre couvent au bûcher de la place Louis XI, il y a plus loin que ses bourreaux le croient. Dites-lui que même entre la hache et le billot, il y a la place pour la délivrance. « Ah !» murmura le moine avec une expression joyeuse. « Vous espérez donc ?»« J'espère en Dieu, mon frère, » répondit le curé marquis. « En Dieu et en notre épée !» s'écria Varose. « Le bûcher de Pierre Prost ne s'allumera pas. Demandez plutôt au capitaine l'accusant. » En entendant prononcer son nom, le capitaine, qui avait assisté à toute la scène qui précède, avec une distraction apparente et semblant ne pas entendre les paroles qui s'échangeaient auprès de lui, sortit tout à coup de cette sorte de torpeur où s'engourdissait son corps, sinon sa pensée, et s'approchant du moine, il lui dit « Ainsi, frère Malo, vous allez au cachot de mon oncle ?»« Oui, capitaine. Sur l'ordre de votre supérieur ?»« Oui, capitaine. Et l'on vous attend à la prison ?»« Sans doute, puisqu'on est prévenu de mon arrivée. »« Vous avez un mot de passe ?» J'ai mieux que cela. Quoi donc? Un laissez-passer. Signé de qui? Du comte de Guébriand lui-même, capitaine. Voulez-vous me montrer ce papier, frère Malo? Le voici. Le moine tira de la ceinture de corde qui serrait son froc autour de ses reins une feuille de papier pliée en quatre. Il tendit cette feuille à l'accusant qui la déploya et qui lut les mots suivants. Laissez entrer cette nuit dans le cachot du condamné Pierre Prost le moine porteur de cet écrit, et que moine et condamné puissent s'entretenir ensemble, librement et sans témoin, pendant une heure. Donné à Saint-Claude, le 20 décembre 1638, de Guébriand. « C'est bien, » murmura le capitaine après avoir lu. « Il faut que je parte, » dit le frère Malo. « Rendez-moi mon laissez-passer. »« Il vous est inutile. »« Comment il m'est inutile ? Comment ? Comment, mais sans lui, je n'entrerai pas ?» « Ce n'est pas vous qui, cette nuit, entrerez dans le cachot du frère de mon père. »« Et qui sera-ce donc, capitaine, ne vous déplaise ?»« Ce sera moi, » répondit fermement et froidement l'accusant.